Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en septembre 2014 et c'est le numéro 40. Bonjour à tous, pour ce numéro je suis avec celui que le monde entier nous envie, notre locomotive à vapeur, rapport à la fumée, Cobal.
Coucou.
Le plus chevelu d'entre nous, pour l'instant c'est Steve.
Hey.
Mon compère de traîtrise podcastienne, François.
Bonsoir.
Enfin l'homme du milieu, mais quel milieu, Jean-Baptiste.
Salut.
Alors, au programme aujourd'hui, François va nous parler de Vild, un jeu avec des objets magiques intelligents, comme c'est bizarre. Jean-Baptiste nous fera un petit panorama des jeux d'Olivier Legrand.
Tout à fait.
Cobal a prévu une petite critique surprise, alors je sais pas, la bulle de Cobal, on sait pas.
Oh, ça.
Une critique. Et Steve fera du fiasco. Et si on a le temps, moi je parlerai de Bimbo. Alors qui veut commencer? On va dire que c'est François qui va commencer.
C'est une première, je commence.
Vas-y, lance-toi.
Donc, je vous l'avais dit la dernière fois, je vais un peu alterner. Là, je vous avais parlé d'un vieux jeu des années 90. Et bien, aujourd'hui, je vais parler d'un jeu des années 2014, tellement récent, tellement nouveau que vous ne le trouverez pas dans des boutiques. En fait, il s'agit de Vild. W-I-E-L-D. Vild. Répétez après moi.
Vild.
Vild.
Donc, Vild est un jeu de rôle de fantasy écrit par John Wick et Gillian Fraser. C'est un jeu qui a fait l'objet d'une campagne de financement participatif en mai de cette année et qui se présente sous la forme d'un livre de petit format d'une centaine de pages. La couverture est assez sympa, j'aime bien cette illustration. La mise en page et les illustrations intérieures sont assez correctes. Et pour le moment, il est disponible au format PDF pour les gens qui ont participé à la campagne de financement, ainsi qu'au format Arbre Mort pour les gens qui ont participé, qui ont donné plus et qui l'ont reçu par la poste, enfin pour certains d'entre eux.
C'est ton cas, toi? Non, tu l'as eu comment, toi?
Moi, je l'ai eu en PDF. J'ai mis un petit peu d'argent, juste ce qu'il faut pour avoir le PDF. Pour être parfaitement sincère, j'ai participé à la campagne de financement parce que le sujet du jeu m'a intrigué. Vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Et voilà, donc ça m'intriguait. J'ai mis des sous essentiellement pour pouvoir récupérer le PDF et pour pouvoir le lire. Pour voir s'il y avait des idées sympas dedans. Donc, tout cela étant dit, donc, qu'est-ce que c'est que Vild? Il s'agit d'un JDR où l'on joue des artefacts anciens, puissants, conscients, et dotés de pouvoirs immenses. Mais voilà, seul un artefact n'est bon à rien, strictement à rien, et pour pouvoir exprimer sa puissance et atteindre ses objectifs, il a besoin d'un porteur, c'est-à-dire un pauvre type qui va le trimballer et accomplir des exploits pour lui.
Ça a l'air hyper original.
Ça me rappelle vaguement quelque chose.
Voilà. Donc vous comprenez pourquoi ça m'a passablement intrigué. De l'aveu de John Wick, parce que quelqu'un lui avait demandé dans les commentaires de la campagne, lui ne connaissait pas Bloodlust. Et d'après ce qu'il disait, ce jeu répondait à une envie qu'il avait depuis quelques années. Évident, son intention essentielle en écrivant ce jeu était de faire un truc qui soit centré sur la notion de négociation, c'est-à-dire de partage du pouvoir entre deux entités liées l'une à l'autre. Ou globalement, j'extrapole peut-être un peu. Hein. Avant de continuer, je vais poser un peu de contexte, enfin en tout cas me concernant, histoire de mettre en lumière ce qui va suivre. Donc j'ai été un fan de Bloodlust dès le début des années 90, j'ai fait jouer la campagne, j'ai tenu un site de fans sur le sujet, et puis au final je suis devenu un des auteurs du remake Bloodlust Metal. Donc on peut voir pourquoi j'étais intéressé, en tout cas intrigué par Vild. Je vais poser les choses, c'est deux jeux qui sont très différents, donc pour le compte je vais essayer d'éviter de
comparer,
de jouer le jeu de la comparaison. Je vais essentiellement parler de Vild. En termes de contenu du bouquin, donc comme je disais c'est une centaine de pages. Donc dans Vild, on joue, comme je disais précédemment, un artefact de puissance, un truc ancien, plein de pouvoirs, plein de pulsions. Et
quand tu dis un artefact, c'est une arme, par exemple?
Alors justement, voilà, c'est l'un des premiers points de différence avec Bloodlust. J'arrête de parler de Bloodlust. le principe de base dans Wild, c'est on va créer des objets, des artefacts. C'est pour ça que j'utilisais le terme d'artefact. Le jeu utilise le terme Vatcha. Je sais pas d'où ça sort. J'ai énormément de mal à le prononcer facilement, donc je vais continuer à dire artefact, comme ça il n'y aura pas de problème. Mais globalement, voilà. Chaque joueur va se créer un artefact de puissance. Et ensuite, chaque joueur va aussi gérer un personnage, un porteur, un héros, pour reprendre le terme qui est utilisé dans le jeu. Et le héros qu'il va interpréter sera le porteur de l'artefact interprété par un autre de ses petits camarades.
Est-ce que c'est obligatoire ça ? Est-ce que l'artefact il doit être joué par un joueur différent du porteur ?
Alors le jeu ne propose pas de ne pas faire ça. Enfin, le jeu.
Il n'y a pas d'autre solution quoi.
Si, le jeu propose une autre solution dans les conseils donnés aux meneurs, mais surtout le jeu ne propose pas de faire jouer le héros et son artefact par la même personne. Tout ce que le jeu propose à un moment vite fait dans un coin, c'est de dire ah bah si vous voulez maître de jeu, vous pouvez gérer vous-même les héros. Parce que l'important là, c'est qu'on est vraiment dans un truc où les héros sont vraiment très très fugaces, ils meurent facilement, on les met vraiment le jeu semble dire attention, les héros ils vivront pas vieux, les artefacts vont souvent en changer. Donc on se concentre vraiment sur l'artefact.
D'autant que s'il y a une logique de négociation qui est apparemment au centre du jeu, ça n'a pas tellement de sens d'avoir à la fois l'artefact et le personnage, enfin, à moins que tu sois Gollum.
Tout à fait, oui.
Et puis j'ajouterais qu'on en avait déjà discuté il y a quelques années de ça, mais ouais. Effectivement cette option-là de croiser, on va dire, était déjà pour Bloodlust une des options qui fonctionnait le mieux. Parce que très clairement, effectivement, il y a très peu de joueurs qui ont les balls pour jouer vraiment, réellement le conflit entre deux personnalités, alors que répartir les armes et les porteurs autour de la table, ça fonctionne très très bien.
Voilà, tout à fait. Alors, je vais vous indiquer comment sont créés les artefacts, comment sont créés les héros aussi, ça donnera quelques idées sur comment ça fonctionne. Donc en fait, quand vous créez un artefact, vous choisissez un type d'objet. Alors de base, il donne toute une petite liste d'artefacts à titre d'exemple, sachant que l'auteur prend la peine de signaler que le meneur peut tout à fait limiter la liste et de dire, par exemple, eh ben les gars, vous n'allez jouer que des armes.
Mais, d'accord.
Mais ça peut être, vous allez jouer, vous pouvez avoir des anneaux, des couronnes, des bottes, donc des armes.
Une bouteille de whisky.
Pourquoi pas une bouteille de whisky, une carriole. Il y a même dans la liste d'exemples qu'il donne, une espèce de police box. Je ne sais pas pourquoi. peut-être un clin d'œil à...
Un perroquet empaillé.
Eh bien, écoute, oui, pourquoi pas. Et donc, en fait, à partir du moment où vous avez créé votre... vous avez choisi le type d'objet que sera votre artefact, vous allez devoir lui choisir plusieurs choses. L'une des choses à lui choisir, c'est une liste de domaines de pouvoir. C'est-à-dire, il y a toute une liste de domaines, ça peut être l'air, la mort, le feu, la destruction, la nature, les animaux, etc. Et en fait, vous choisissez un, deux, voire trois domaines. Le nombre de domaines n'a pas d'importance finalement. Vous allez voir, la manière dont on accède au pouvoir est un peu particulier.
Tu peux te faire une carriole ou un perroquet empaillé avec le domaine de la destruction, par exemple ?
Oui, tout à fait. D'accord. Dans les exemples de création d'artefacts que donne l'auteur, il y a une carriole gitane qui a
par
les
exemple,
pouvoirs,
la carriole
les pouvoirs de
feu. De
l'air.
La carrière.
Oh.
Ou la trompette de Jéricho.
Ceci dit, vous rigolez depuis tout à l'heure sur sur le perroquet empaillé. Mais si vous relisez vos romans de Drizzt Do'Urden et de l'Elfe Noir, c'est exactement le rapport qu'il a avec Gwenweaver. Hein. C'est-à-dire qu'il a en fait à la base une figurine d'onyx magique qui se trouve être une créature dotée de personnalité, etc. Et c'est un des rapports les plus intéressants qu'on a dans le roman.
Je l'ai lu il y a 20 ans.
Mais ouais.
Moi, je ne l'ai pas lu.
Bon, donc là, je fais un bide complet, en fait.
Voilà. Non, mais je suis d'accord. Non, mais au contraire.
Non, mais c'était parce qu'en plus, il y avait vraiment une intensité poignante dans ce que tu as dit.
Moi, je cherchais à te défendre pendant que les autres faisaient des blagues. Maintenant, je vais m'abstenir et je vais te laisser tout seul.
Non.
Vas-y, François, continue.
Pendant que je baptise Boud.
Je me sens seul tout d'un coup. Donc voilà, une fois qu'on a choisi ces domaines de puissance, en fait, il y a les deux autres choses importantes à choisir pour l'artefact, c'est quoi son grand but dans la vie. Mais là, quand il parle de grand but, c'est vraiment pour chaque artefact, il faut avoir un objectif épique. Les exemples qu'il donne, c'est un tel, il veut tuer tel dieu. Enfin, ton artefact, par exemple, il veut détruire un dieu en particulier. Ton autre artefact, il veut s'assurer que l'héritier perdu d'une lignée régnante remonte sur le trône millénaire d'un empire déchu depuis longtemps.
J'ai une question. Tu dis que c'est des trucs épiques à chaque fois, donc. Mais est-ce que l'intelligence qu'il y a dans les armes, est-ce qu'elle a une origine divine, par exemple, qui...
Il n'y a aucune information.
Ah, il n'y a pas d'information là-dessus, d'accord.
Je vais poser. Enfin, je fais une petite parenthèse très rapide que j'aurais peut-être dû faire en préambule, mais dans le bouquin, dans les 100 pages du bouquin, il y a essentiellement un système de jeu pour créer les armes, enfin les artefacts, pardon, et les objets, un système de résolution, une liste de pouvoirs et pas de background du tout.
Même pas un background en filigrane avec les pouvoirs.
D'accord. Globalement, le seul élément de background qu'il y a dans le bouquin, c'est de la enfin, on suppose que c'est de la fantasy parce qu'on parle d'objets magiques, on parle d'épées. Donc globalement, et les illustrations aussi véhiculent l'impression de fantasy.
Mais au final, ça pourrait être des objets hyper technologiques, ce serait pareil. Quoi.
Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pour continuer la digression. Parmi les objectifs qui ont été remplis pendant la campagne de financement participatif, on a débloqué toute une série de cadres de jeu qui seront regroupés dans un compagnon et qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore disponible en PDF. C'est là que je suis un peu embêté, c'est que j'aurais bien voulu l'avoir pour faire la chronique en combinant les deux bouquins, mais comme il tarde à arriver et que ce radio-rôliste, lui, par contre, ne tardait plus à arriver, je me suis dit, ben, what the fuck, tant pis, je vais faire sans.
Non mais ce que je disais, c'est que décris-nous le jeu, ce que tu es en train de faire, c'est bien le jeu tel quel, et on verra après si tu changes d'avis par exemple avec le compagnon.
Voilà, effectivement, je ferai éventuellement un retour une prochaine fois, une fois que j'aurai lu le compagnon. Donc pour votre artefact, vous lui avez défini un grand objectif, un truc épique, un truc qui va servir de ligne directrice à la campagne. Il faut bien voir la même chose, c'est un truc que l'auteur pose dans ses conseils de jeu, il dit les objectifs des artefacts vont servir de ligne directrice à la campagne. Et le dernier truc qu'il faut définir pour votre artefact, c'est comment il peut être détruit. Et là, même chose, on est dans le truc à façon épique. Ah ben, ton anneau d'or super puissant, il ne peut être détruit que si on le jette dans la montagne, enfin dans le volcan où il a été forgé. Ou tiens, telle couronne, elle ne peut être détruite que si elle passe 10 ans à être portée par une reine vierge avant de passer un siècle dans le ventre d'un dragon.
Donc ça veut dire que chaque artefact a une manière d'être détruite différente, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est important ?
Je ne sais pas. Franchement, maintenant, effectivement, c'est dit comme ça. Ça fait partie des éléments qui sont donnés pour la création des artefacts. Et je sais pas.
Et t'es obligé de le faire ? Enfin, je veux dire, tu vois, moi, je crée ma chariot, mon perroquet, on va dire.
Ton perroquet en
mon perroquet en paillet qui balance des flammes et qui est porté par un pirate qui fait yar yar tout le temps. Est-ce qu'il faut que je décrive, par exemple, qu'il doit être mangé par un krakoukas géant ou un truc comme ça ? Ou est-ce que ça peut, tu vois, je sais pas, être décidé à un moment donné parce que t'as envie de changer d'artefact ?
Bah, si tu le joues by the book, ça fait partie des choses que tu définis.
D'accord, ça fait partie de la création du truc.
Ça fait partie de la création de l'artefact.
Okay. Mais en même temps, ça te type vachement un artefact. Moi, je trouve, tout ce que tu m'évoques, moi, évidemment, je me projette dans le donjon verse, hein, parce que ça tombe un petit peu sous le sens, bien sûr, parce que je vois du donjon verse partout. Mais sur certaines campagnes, quand tu avais vraiment un gros artefact et qui te mettait à chaque fois effectivement un truc un petit peu exotique pour le détruire, bah, je trouvais que ça typait énormément l'objet, beaucoup plus que. Au moins autant que ces listes de pouvoirs, etc. T'avais un côté, comment on va pouvoir se débarrasser de ce mal séculaire ? Et en soi, c'était un scénar.
Ouais, mais là, c'est pas le mal séculaire, c'est ton perso.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Non, tu peux être le mal séculaire, mais c'est un peu relou quand t'en as 5 autour de la table. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu vas définir une manière de détruire ton propre personnage, ton propre artefact.
Bah ouais, mais justement, c'est trippant, non ?
Oui, c'est trippant, mais quel est l'intérêt en jeu ?
Bah, tu files des clés au MJ, déjà.
Donc c'est quoi le but du MJ, justement ? C'est François, il va nous dire ça.
Alors, le but du MJ. Bon, de toute façon, on a fini la partie création des artefacts. Et puisque Yannick me tend une perche tout à fait remarquable,
bah, je sais.
Je m'en saisis. En fait, le meneur de jeu porte un nom assez particulier dans ce jeu. On l'appelle le destin. Et c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, le maître de jeu joue le rôle du destin. Qui surveille les événements, qui surveille les aventures de ces artefacts et de leurs héros. Et le jeu donne l'impression vraiment de positionner le destin comme un quasi protagoniste des aventures. Bon, c'est le maître de jeu, donc forcément c'est un protagoniste des aventures, c'est lui qui gère l'opposition, qui dit qui jette quoi, à quel moment, et ce qui se passe.
C'est un déroulement classique.
Oui, c'est un déroulement relativement classique, tout à fait. Donc avec le seul truc un peu particulier que donc il y a un système de gestion croisée des personnages. Et donc les héros, les héros sont créés par le destin. En fait, ce ne sont pas les joueurs qui créent les porteurs, c'est le maître de jeu qui se crée toute une panoplie de porteurs potentiels et qui va les distribuer à ses joueurs. Chaque artefact va tirer au hasard son porteur, son héros, parmi toute une liste que le destin va avoir créée. Ensuite, la création des héros, c'est super rapide. C'est un nom, une thématique, une destinée. Chaque héros a une destinée qui était le machin vers lequel il allait avant de devenir malencontreusement ou volontairement le porteur de l'artefact. Et il a aussi un ou deux traits de personnalité. Et c'est tout. Donc en fait, créer des héros, c'est vraiment super, super rapide. Et on continue à être dans cette impression que de toute façon, ils ont un rôle secondaire.
Il n'y a pas de travail technique spécifique
Non, du tout.
Quand tu dis qu'ils ont un destin, c'est-à-dire que c'est comme les objets eux-mêmes, ils ont finalement, les héros, une méthode de destruction ou un truc comme ça.
Non, mais c'est plutôt...
En tout cas, quel sera leur type d'accomplissement
Voilà, c'est qu'est-ce qu'il était destiné à faire, qu'est-ce qu'il souhaitait devenir avant de devenir le porteur de l'artefact. Par exemple, Bob l'albino, c'était destiné à être le patron de la guilde des boulangers pâtissiers de sa petite île. Et en fait, malheureusement, il a ramassé un couteau à pain en obsidienne qui a fait « Ah, je suis un artefact, maintenant tu es mon porteur. » Bon, bah oublie hein, cette histoire de guilde des pâtissiers. Donc ensuite, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur la manière dont on résout les actions. Donc là, on va parler deux secondes du système de résolution qui est relativement simple et qui est basé sur des D6, sur une poignée de D6. En fait, quand vous cherchez à résoudre une action... à la demande du destin, donc, ce destin va vous indiquer une difficulté qui peut être de 6, 12, 18, 25. Le plus bas niveau de difficulté, le truc super facile, ne nécessite pas de G. Vous verrez que ça a de l'importance tout à l'heure. Et puis pour le reste, vous prenez 2 D6. Si vous disposez d'un objet qui vous permet de faciliter votre action, vous avez un D6 de plus. Si votre destin ou un trait de personnalité est adapté à ce que vous voulez faire, vous avez un D6 de plus, etc. Donc vous réunissez une petite poignée de D6, vous les lancez, vous les additionnez, et si le résultat, si la somme des D6 dépasse la difficulté, vous avez réussi. Ça, c'est du tout simple, ça marche correctement, et puis donc c'est vaguement un système à base d'aspect.
Oui, c'est bien, tu peux négocier à chaque fois en disant est-ce que je peux utiliser tel trait ou tel autre trait, quoi.
Voilà, bon, comme il n'y en a pas énormément, ça peut être fait rapidement.
Il y a une liste de traits, c'est ça? C'est pas des traits ouverts?
Si, c'est des traits ouverts, mais donc ce que je veux dire, c'est que les personnages n'en ont pas des masses.
Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que comme ton personnage est défini très rapidement, tu prends pas la tête longtemps.
Le héros que t'as refilé le destin, il y a son nom, il y a son destin. Enfin, globalement, il y a ce qu'il est, il y a sa destinée, il y a son thème, il y a son trait ou ses traits de personnalité, et c'est vite fait. Puis s'il trimballe avec du matos qui peut servir. Et tout ça, bien entendu, ça va servir entre autres pour les combats. Mais avant de vous expliquer comment on meule, je vais vous expliquer comment on a des pouvoirs. Parce que souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais que les artefacts filaient des pouvoirs à leur porteur. Mais en fait, sur votre artefact, tout ce que vous avez, c'est les domaines qu'il possède. Parce qu'en fait, l'artefact, à partir du moment où il possède un domaine de pouvoir, il possède tous les pouvoirs de ce domaine. En fait, chaque domaine, il y a, en fait, la moitié du bouquin est remplie d'une liste de pouvoirs. Donc forcément, ça laissait moins de place pour le reste. Voilà, il y a 50 pages de liste de pouvoirs, et donc pour chaque domaine, il y a 10 pouvoirs. Chaque pouvoir a un niveau qui va de 1 à 10, donc. Et plus le niveau du pouvoir est élevé, plus son efficacité est importante. Et donc au moment où l'artefact récupère son porteur, et c'est là que commence un peu ce jeu de négociation, parce que l'artefact choisit les pouvoirs qu'il va conférer à son porteur. Et sauf que plus l'artefact file de pouvoir à son porteur, plus le contrôle que l'artefact peut avoir sur le porteur baisse. Il y a un pool de 10 dés de contrôle que les deux entités vont se répartir. De base, avant que l'artefact file des pouvoirs à son porteur, les 10 dés appartiennent à l'artefact. Et ensuite, il y a une espèce de petite pyramide, enfin un petit tableau qui permet de savoir en fonction de la somme de tous les niveaux de puissance, de tous les niveaux de pouvoir qu'il file à son porteur, on va savoir petit à petit combien de dés passent chez le porteur. Et donc, bah, si l'artefact file une tétrachier de pouvoir, des trucs fabuleux, le machin qui lui permet de faire une tempête de flammes qui dévaste un pays entier, qui lui permet de se téléporter, va savoir où, je ne sais trop quoi encore, et ben tout d'un coup, l'artefact, il est bien embêté, parce qu'il ne peut plus, quasiment plus, dire à son porteur « ça serait cool si on allait buter le dieu machin là-bas ». Parce que globalement, bah, en revenant sur Bob l'Albinos, il va faire « Mais on s'en fout, moi j'ai dit que je voulais être le patron de la guilde des boulangers-pâtissiers et avec les pouvoirs méga puissants que tu m'as filé, je vais le devenir. » Et le couteau à pain en obsidienne fait « Mais non, mais moi je voulais qu'on aille faire ça. » Et ça ne peut plus marcher. Et
il peut pas lui retirer des pouvoirs ?
Bah, de toute évidence, non. En fait, à chaque fois que tu changes de porteur, tu choisis les pouvoirs, les quantités de pouvoirs que tu y donnes. À moins que j'ai raté une information qu'il a su, mais j'ai pas l'impression. Et je pense que l'idée de base, c'est ça. C'est au moment où tu choisis ton porteur, mais faudrait que je vérifie ça.
Et si par exemple ton porteur meurt, les pouvoirs que tu lui as confiés, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Enfin, les détroviennent ou
Ah oui, c'est ça. Alors oui, à partir du moment où le porteur meurt, l'artefact se retrouve avec tous les dés de contrôle qui reviennent chez lui et ça ne sert à rien vu qu'il n'a pas de porteur. Et à ce moment-là, il y a un des points de règle qui me fait vraiment bizarre dans ce jeu, même si c'est justifié, si l'auteur donne une justification, c'est qu'au moment où un des porteurs meurt, le destin, le meneur de jeu, récupère toutes les cartes de héros survivants, il déchire en petits morceaux celles du héros qui vient de mourir.
Avec un air méchant.
Avec un air méchant. Il tire au hasard un nouveau héros, il mélange tous les héros qu'il y avait autour de la table plus le nouveau héros, et il les redistribue au pif. C'est une des idées. Ça fait partie de ces idées qui, dans ce jeu, me donnent l'impression d'être une... qui me donne une impression de fausse bonne
idée. Une fausse bonne idée, voilà.
Oui, c'est ça.
Je dirais même de vraies mauvaises idées, à titre personnel.
Non, mais on ne sait pas. On n'a pas forcément la justification. L'idée derrière, c'est à quoi ça sert et comment tu justifies narrativement le fait que tu changes de porteur.
Alors.
Ou d'arme, ou d'objet.
Narrativement, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est juste la personne qui gère le porteur d'un autre artefact qui change. Les artefacts ne changent pas de porteur.
Ah oui, d'accord. C'est juste
la personne qui gère, qui joue le porteur d'un des artefacts qui va changer.
Ah d'accord, ok.
Ah oui. D'accord.
J'avais pas compris comme ça.
C'est moi qui jouais le Bob l'Albinos depuis le début.
Voilà.
Et d'un coup, parce qu'il y a un des joueurs qui est mort, je vais me retrouver à jouer Gérard, je sais pas moi, quelqu'un d'autre quoi.
Bah Gérard, le porteur du fouet.
Le porteur du fouet, d'accord. Et c'est moi qui vais le jouer, mais en fait, le fouet et Gérard sont toujours liés quoi.
Exactement.
D'accord.
En fait, c'est ce que tu disais au début, c'est que les porteurs ont peu d'importance, ils sont tirés au sort, et j'ai l'impression que dans le jeu que veut générer John Wick, le porteur change beaucoup, beaucoup, et qu'on passe beaucoup de temps à renégocier les clauses des contrats.
C'est exactement la justification qu'il donne, c'est vraiment pour renforcer cette impression de futilité, de peu d'importance du porteur. Et dans les conseils de jeu, plus tard, il dit si vous voulez quand même un peu renforcer, déjà rendez les héros plus résistants. J'avais pas oublié, les héros ont 3 points de vie, 3 points de blessure. Donc il dit donnez-leur plus de points de blessure. Et je pense aussi que le fait de garder le porteur sur les joueurs est aussi une des façons de redonner un peu d'importance au porteur. Cela étant, vas-y, oui.
Mais oui, parce que moi, à la limite, effectivement, maintenant que je vois tout ça, je trouve ça effectivement très astucieux. C'est pour éviter, encore une fois, le syndrome Bloodlust, mais parce qu'il faut bien le nommer, qui est du joueur qui finit par s'attacher complètement à son porteur, alors que là, il y a un tas de mécaniques qui sont mises en place pour que tu ne t'y attaches pas. Il est jetable, c'est pas lui qui compte.
Tout à fait. Ouais. Voilà, c'est juste, j'ai des réticences sur le jeu, mais aussi parce que je pense que je suis pas forcément parfaitement la cible pour le faire jouer ou pour y jouer. Le seul truc qui mécaniquement, en termes de game design, me gêne beaucoup dans ce système du tirage, c'est que, voilà, je vous ai là, vous êtes 4, vous êtes mes joueurs, vous avez chacun créé un artefact. J'ai 4 héros à distribuer. Je les distribue au hasard. C'est bien, vous jouez chacun le porteur d'un autre artefact. D'ailleurs, je ne sais pas pour le compte comment on aura défini au début qui était le porteur de quoi, ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais par contre, au moment où l'un des porteurs meurt, je récupère les trois porteurs restants, j'en rajoute un, je les remélange. J'ai quand même une foutue chance de refourguer son porteur à un artefact.
Oui, mais tu retires.
Oui, mais ça. Pas... Oui.
Je vois ce que tu veux dire.
Il y a un petit manque. C'est l'un des trucs qui me chagrine un peu dans ce jeu, c'est d'avoir plusieurs fois eu l'impression qu'un mécanisme élégant à la lecture ne l'était pas autant qu'il n'était pas à ce point une fois mis en
question statistique en fait.
Oui, bah, c'est juste voilà, c'est une question. C'est oh tiens, il a une idée super élégante et puis tu dis mince, mais quand je la mets en pratique, il y a quelques grains de sable qui viennent casser l'élégance de cette mécanique. Et vous allez voir qu'on va revenir là-dessus en parlant du système de combat. Parce que forcément, on parle d'aventure, on parle de héros qui vont accomplir des destinées fabuleuses, devenir le maître du monde, le patron d'une guilde fabuleuse, à savoir quoi.
Vas-y, alors c'est quoi le combat ?
Alors comment est-ce qu'on meule ? Le truc de base, c'est quand on meule, ce sont des jets tout aussi simples que ceux que j'ai décrits tout à l'heure. En fait, c'est un système d'attaque et de défense, et à chaque tour de jeu, chaque personnage a l'occasion de faire une action. Il peut choisir d'attaquer, de défendre ou d'utiliser un de ses pouvoirs. Et il y a tout un petit système de déclarations simultanées qui permet de savoir ce qu'on fait. Je reviendrai dessus après. Mais la façon dont se résolvent les actions, c'est vous avez choisi d'attaquer, vous choisissez le nombre de points de dégâts que vous allez faire. Vous décrétez « j'attaque » et je vais faire 1, 2, 3, 4 ou 5 points de dégâts. Quand vous défendez, c'est la même chose, vous dites je vais me défendre contre 1, 2, 3, 4 ou 5 points de dégâts.
T'es pas obligé de prendre la même chose que l'attaque.
Non, parce que de toute façon, comme c'est fait en simultané, tu ne sais pas. Et ensuite, une fois que vous avez décidé la puissance de votre action, ben vous allez lancer les dés. Mais plus la puissance est élevée, plus la difficulté est élevée. Si vous attaquez pour faire un point de dégâts ou si vous défendez d'un point de dégâts, vous n'avez même pas besoin de faire de jet, c'est la réussite automatique dont on parlait tout à l'heure. Et puis ensuite, vous passez à du 6, 12, 18, 25 de difficulté. Si un espèce de saloperie d'ogre décide d'attaquer Bob et son couteau à pain, et que moi, en tant que destin, je fais « Ouais, l'ogre, de toute façon, je vais y aller comme un gros bourrin », je décide d'attaquer à 4. Bah, même si Bob l'albino est en train d'attaquer quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que je vais automatiquement le toucher. Il faut que je réussisse à vaincre la difficulté qui va me permettre de lui faire 4 points de dégâts.
Oui, je fais mon probabiliste chiant, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers dans cette histoire ? C'est que si j'attaque à 1, il suffit que l'adversaire en face il défende à 1, et donc c'est certes très facile pour moi de réussir mon jet d'attaque, mais ça sera aussi très facile pour l'autre de réussir son jet de défense.
Comme c'est simultané, il y a un coup de bluff.
Ah oui, effectivement.
Et puis tu ne fais qu'une seule action. Se défendre à 1, dire « Ah, je vais me défendre à 1 », c'est dire « Ok, je ne vais pas trop prendre », mais de toute façon, tu ne fais rien.
Ah oui, d'accord. C'est
et
pas,
donc, mais voilà. Il y a tout le système de déclaration en fait qui est censé être fait en simultané. Et la manière dont c'est décrit dans le jeu, c'est phase de décision, vous faites vos choix, ils comptent, genre 1, 2, 3, 4, et à 4, chacun tend le doigt en direction de sa cible en faisant un geste différent. Enfin, s'il tend le doigt, c'est qu'il attaque, en indiquant avec ses doigts la puissance de son attaque.
Je peux pas, moi.
S'il se défend, c'est la même chose, mais il indique le nombre de points de défense en mettant la main devant son torse. Et pour indiquer qu'il utilise un pouvoir, c'est un autre symbole, je crois, avec le poing fermé. Parce que globalement, quand on utilise un pouvoir, il n'y a pas de puissance. Et en fait, c'est la méthode. C'est que simultanément, tout le monde indique ce qu'il veut faire en pointant sa cible.
Il y a un petit côté guns, là, tu sais.
Oui, c'est ça. Il y a un petit côté guns ou il y a un petit côté pierre-papier-ciseaux.
Oui, mais excusez-moi, mais là tu décris un truc, on a l'impression que c'est les joueurs qui se battent entre eux.
Merci. C'est exactement là où je voulais aller. C'est mon petit gros problème avec cette mécanique, c'est que quand tu la lis, tu fais waouh, ouais, c'est super élégant, c'est simultané, tout le monde se pointe. L'exemple est basé là-dessus, c'est-à-dire les exemples de création se basaient sur trois joueurs avec leurs artefacts, et on les retrouve au moment des exemples de combat. Et dans les exemples de combat, on t'explique comment ces trois persos sont en train de se mêler. Et je dis, mais mince, mais c'est un jeu où on fait du combat entre persos. Mince, c'est dommage parce que je trouvais le truc super élégant, mais comment on fait s'il y a d'autres personnes impliquées dans le combat ? Bah là, l'auteur arrive derrière, dit, bah oui, non, si jamais il y a d'autres protagonistes.
Bah, au cas où,
c'est, voilà.
Au cas où j'ai des monstres.
Au cas où il y aurait des monstres, en fait, le meneur, il utilise des petits papiers. Et puis sur chaque petit papier, il met sa décision d'action pour son protagoniste, il les met devant lui. Et puis ben, les joueurs vont pouvoir pointer.
Enfin, il pourrait faire ça avec un coup de carte, tu sais. Enfin, ouais.
Voilà, il y aurait sûrement des mécaniques à base de cartes, à base de jetons. Enfin, il y aurait sûrement moyen de faciliter ça.
Mais en fait, on perd tout le côté sympa que tu viens de décrire.
C'est exactement mon gros regret. c'est, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, cette impression d'une, d'un truc où tu fais, oh, c'est élégant. Et mais mince, mais quand on va l'appliquer, ça va ouais, pas du tout
dit,
être.
Tu, si chacun a trois cartes, et tu vois qu'il les pose en face du MJ, et que le MJ fait un peu la même chose, ça va. Quoi.
Mais arrêtez-moi si je me trompe, John Wick, c'est l'auteur de Dirty MJ, non c'est,
oui,
c'est
tout
ça,
à fait.
Oui. C'est sa carte de visite, ce genre de truc-là, de te proposer un truc sur le papier, tu te dis c'est génial, et parce que lui t'explique, ouais, ma table, ça marche trop bien.
Exactement.
Et en fait, après, toi, quand tu joues, alors attends, parce qu'il y a plein de cas qu'il n'a pas précisé.
C'est exact, mais franchement, j'avais plus, j'ai pas... Excellent.
C'est bon, vas-y, on voit.
Non, mais c'est tout à fait ça, Jean-Baptiste. En fait, j'avais plus trop l'habitude. J'avais lu Dirty MJ. Je sais plus ce que j'avais lu de l'autre. Bah, il a participé à L5R, entre autres. Mais globalement, c'est ça. C'est exactement l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire ce jeu-là.
Vas-y, continue.
Ce jeu-là conforte cette impression.
Okay.
Bon, je vais essayer d'aller un peu vite, enfin de boucler ça, parce qu'effectivement le bouquin, à part donc les 50 pages de pouvoir, derrière il y a une petite section de conseils aux meneurs, qui donc donne des conseils sur la création des héros, donne des conseils sur la création des PNJ, sauf que là ça fait aussi partie de ces espèces de trucs que je trouve très incomplet, ce qui t'explique que tu peux gérer des groupes de PNJ ou des monstres. Et il y a très peu de détails techniques. C'est là vraiment des trucs que j'ai trouvé super, super embêtants. C'est que par exemple, pour les groupes de PNJ ou les monstres, on te dit qu'ils ont un nom. Genre, bah, c'est l'armée des livreurs de chouquettes de l'enfer, par exemple. Ou c'est l'ogre de la colline. Et on te dit, bah, y a ce nom.
Ta campagne pâtissière, moi je veux la jouer.
Oui, hein. ça commence à prendre certain tour.
Je pense que tu vas venir jouer avec nous.
Mais
on a des choses à te proposer.
Mais donc voilà. Et
moi,
donc,
je me
on
suis
a...
un peu barbouillé du coup.
Donc il y a ce nom. Ils disent, il vous dit aussi, tiens, vos groupes ou vos monstres, ils peuvent avoir des capacités. Voilà un ou deux exemples de capacités. Mais vraiment juste en mode, ils peuvent avoir des capacités. Ça peut être plusieurs attaques par tour, ça peut être de la régénération. Et là, t'as envie de faire oui et donne-moi des exemples. Il n'y a pas d'exemple. Et en plus, parmi les trucs qui m'agacent là sur les adversaires, c'est qu'on n'a même pas d'informations sur comment on fait les jets de dés. Alors je me doute, on va lancer 2 dés. Si l'action correspond au type de la créature, on va lancer un dé de plus. S'ils ont des armes, on va lancer un dé de plus. Mais il n'y a même pas une once d'explication.
En fait, c'est quand même pas super précis, quoi.
C'est exactement ça.
Il est sorti le bouquin ou il est toujours en...
Ah bah, il y a des gens qui l'ont déjà reçu. Hein. Moi,
ce que j'ai
PDF.
Ce que je veux dire, c'est que c'est un travail, c'est un work in progress ou c'est,
non, non,
ou
non,
c'est terminé.
Bah, le bouquin, le PDF a été livré à ceux qui ont soutenu, à tous ceux qui ont soutenu, et les bouquins ont été imprimés, ont été envoyés à ceux qui ont
donc
soutenu suffisamment.
Donc il a vendu un truc qui, toi, te semble pas très fini en fait.
Ah ben bah, moi, il a vendu un truc qui contient quelques bonnes idées et qui est très vide à d'autres endroits.
Moi j'ai une question, est-ce que tu penses que, c'est un truc tout bête, mais si j'ai envie de faire du Bloodlust-like, c'est-à-dire dans le même univers, mais par exemple parce que, je sais pas, moi les règles elles m'intéressent moins, et que j'ai envie de le faire, est-ce que tu peux simuler par exemple du Bloodlust-like avec ça et trouver ton plaisir ou pas?
Je sais pas.
Ou est-ce que c'est vraiment fait pour autre chose ou...
Non, si, sûrement, mais la mécanique des pouvoirs de jeu est assez différente. Donc tu pourrais faire jouer du Wild sur ta Naïfis, mais fatalement, à la fin, l'ambiance serait différente.
D'accord.
Et juste, je vais finir très rapidement. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je vais éviter de continuer à bâcher. Si, un machin super important, à mon goût, c'est toujours sur cette impression de PVP, enfin pardon, de
joueur contre joueur.
De joueur contre joueur que vous évoquiez tout à l'heure. C'est qu'à un endroit, dans la partie de la section du meneur, il y a une section qui s'intitule PVP. Et qui fait, ah oui, non, mais attention les gars, hein, c'est pas un jeu qui est fait pour se taper dessus entre joueurs. Hein, c'est plutôt, ils sont quand même ensemble pour faire des trucs. Et là, tu repenses à la section sur le combat et tu fais, mais pourquoi ton exemple, dans ce cas-là, c'était entre des joueurs? Et ça va un cran plus loin, c'est que la section juste après qui parle de l'amorce des campagnes, il te dit, de toute façon, vos persos, vos artefacts, ils ont des objectifs, donc ça va vous servir de moteur. Mais vous pouvez quand même faire autrement. Tenez, par exemple, vous pouvez dire que vos joueurs, ils jouent les héritiers d'un roi qui a disparu, qui a laissé derrière lui son artefact. Et là, vous lancez vos persos, ils vont se faire la course pour savoir lequel va récupérer l'artefact. Façon Ambre. Et tu lis ça, tu fais, mais...
Ambre, c'est la quintessence du PVP, quoi.
Voilà, c'est ça. Et mais c'est sur deux pages qui suivent. Et là,
façon Ambre ou Vampire, c'est vous qui voyez.
Je comprends, voilà. C'est là vraiment que je ne comprends pas. Donc, j'ai une sale impression de pas achevé ou de mal fagoté
bah,
sur
en
ce
fait,
jeu.
J'ai l'impression que là, il y a au moins 3 ou 4 jeux potentiels dans celui-ci et qu'il n'a pas voulu choisir.
C'est ça. Alors ensuite, moi, ce que j'attends...
Moi, je voudrais déjà qu'il y ait un jeu, mais bon.
Ouais. Mais l'absence de background, l'absence de bestiaire, il n'y a même pas une seule créature en exemple, quoi. Ce qui aide à renforcer encore cette idée qu'il va falloir faire, se faire tabasser les joueurs entre eux, enfin les personnages entre eux, pardon. Le compagnon qui va arriver va proposer toute une série de cadres pour faire du western façon arme dieu, pour faire du comment ça s'appelle, du victorien, des choses comme ça. Il y a suffisamment de gens qui ont donné de l'argent pour que ce compagnon puisse voir le jour. J'ai hâte de la voir pour voir si là au moins s'il n'y aura pas quelque chose à en tirer. Et sommet de l'ironie, je trouve, parmi les paliers qui ont été débloqués, il y a quand même un palier où il s'agit d'avoir les règles pour jouer à Wild avec Fate. Donc un bouquin, là le bouquin de base qui ne contient qu'un concept et la mécanique pour la jouer, et qui vraiment...
Tu te dis, ce serait bien de jouer avec une autre mécanique.
95% du bouquin, c'est de la mécanique, et tu te dis, mais vu que vous avez donné assez, on va vous faire le supplément pour utiliser Fate avec le concept de base.
C'est-à-dire que si vous donnez plein d'argent, on enlève 95% du bouquin. C'est
voilà.
Ça
bah, oui.
C'est okay.
Mais justement, en termes de portabilité,
oui.
C'est-à-dire voilà, le système que tu as décrit, mettons qu'il ne me parle pas, que j'en ai pas envie, ou que moi, effectivement, j'ai mon système à moi qui est mieux que tout ce qui existe ailleurs, et de toute façon, je joue à tout avec ça, y compris à Raoul. Je joue à Raoul avec Fate et j'ai pas de problème. Enfin, bref, en termes de portabilité, est-ce que j'ai un intérêt à acheter ce que tu viens de décrire en me disant il y a des trucs à prendre, il y a des trucs à piquer, des conseils, des machins, des bidules.
Non, il n'y a pas assez de conseils. Le concept de base, finalement, il est très rapide à percevoir. Je pense que la chose qui sera intéressante, j'espère, ça va être le compagnon, s'il y a des éléments de background sur les différents univers proposés. Si c'est juste des listes de pouvoirs spécifiques, genre vous voulez faire des artefacts flingues dans un western, voilà une liste de pouvoirs. Je vais être très désagréable la prochaine fois où on en parle.
Ok, on va arrêter là sur Wild. Merci beaucoup François. Qui prend la suite, Jean-Baptiste?
Allez, soyons fous. Donc moi je voulais parler d'Olivier Legrand. Alors qui est Olivier Legrand? Olivier Legrand est un rôliste, un membre de notre confrérie, des gens qui se réunissent le samedi soir pour invoquer Satan. Et c'est quelqu'un qui... au fil des années, a, sur la toile, distribué un certain nombre de jeux gratuits, basés sur des références littéraires, on va dire des licences, même si, comme c'est gratuit, il n'a pas eu à payer, donc offre son jeu, ou des références moins littéraires, parfois donc un pastiche notamment du plus célèbre et du plus vieux des jeux de rôle. Et je voulais donc parler d'Olivier Legrand, pourquoi ? Parce que, bah, pour quelqu'un qui propose, on va dire, 7 ou 8 jeux gratuits, complets et de fort belles factures, je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas encore assez d'exposition dans notre milieu. On en parle assez peu dans les médias, on va dire, tels que Cassus, etc., etc., alors que c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être découvert. Donc, je vais faire une petite présentation du personnage. C'est quelqu'un qui a travaillé, Olivier Legrand, sur le supplément France du Monde des Ténèbres, ce qui nous...
Celui qui avait deux couvertures.
Sur quel segment?
Eh bien, ouais, je suis content que tu me poses la question parce que je n'en ai pas la moindre idée, parce que ce n'est pas vraiment ce qui m'intéressait dans ma préparation de l'article. Mais ce genre de questions perfides, je te reconnais bien là. Voilà, donc là, je viens de perdre toute crédibilité.
Non, mais c'est pas grave, il a travaillé quand même sur...
Au niveau de nos auditeurs. Non, moi, c'est vrai que ce n'est pas tellement son parcours sur le JDR Pro qui m'intéresse, mais c'est plutôt ce qu'il a fait après. Et donc, il a commencé à proposer ces jeux. Alors, le plus connu de tous, si vous avez été un petit peu sur la toile et que vous êtes fan de Frank Herbert, c'est évidemment Imperium, qui est son jeu pour faire du Dune.
Ah, c'était de lui.
Voilà, qui est considéré comme une référence, même par les fans hardcore du cycle littéraire, notamment au niveau de sa description de l'univers. Je crois qu'il s'est basé sur énormément d'informations à la fois officielles et officieuses. Je crois qu'il y a une espèce de bible du monde de Dune qui existe, qui n'a pas été approuvé par les héritiers d'Herbert, etc., mais qui est considéré par tout le monde comme vraiment une somme. Mais bref, enfin, je voulais pas embrayer tout de suite là-dessus. Je voulais d'abord préciser aussi que Olivier Legrand, c'est quelqu'un qui actuellement a droit à un peu plus de lumière dans notre milieu, puisqu'il a réussi l'exploit, comme Éric Niodan des années avant lui, d'être le premier d'entre nous à, enfin, être un des rares élus à pouvoir mettre le pied dans l'industrie beaucoup plus mainstream, qui est celle de la bande dessinée, puisqu'il vient d'être publié en tant que scénariste d'une bande dessinée qui s'appelle Les Quatre de Baker Street, qui est une bande dessinée en fait sur les enfants qu'emploie Sherlock Holmes pour l'aider dans ses enquêtes. Donc on parle des enfants qu'il aide, vous savez, ces petits mendiants auxquels il fait régulièrement allusion, etc., etc., pour aller à des endroits où personne ne les repère et pour récupérer les drogues parce que personne ne les voit.
C'est un jeu qui défend le travail des enfants.
Et donc il est scénariste sur les quatre.
Il est scénariste sur cette bande dessinée et il a réussi donc à faire publier par la maison d'édition qui publie la bande dessinée un coffret complet avec le premier tome de la BD, la Bible du monde des quatre de Baker Street et le jeu de rôle les quatre de Baker Street. Donc on peut trouver en grande surface, on a pu trouver, j'ai pas foutu les pieds dans une grande surface culturelle depuis très très longtemps, donc je sais pas s'il est encore en tête de gondole ou s'il se trouve encore ou si c'est une édition tellement limitée qu'on ne la trouve plus. Mais le fait est qu'il a pu mettre, comme à l'époque du jeu de rôle Landfest de 3, il a pu mettre du jeu de rôle dans nos FNUC, et ça c'est quand même un exploit qui mérite d'être souligné. Précisons aussi...
C'est le cas avec City Hall actuellement aussi.
Je ne sais pas de quoi tu me parles.
Il est sorti, ça y est.
Et avec Brigade Chimérique. Et avec,
Il a réussi ce petit exploit. Et donc, c'est quand même super sympa. Le jeu de rôle des 4 de Baker Street, qui propose donc, comme son nom l'indique et comme je vous ai précisé, le pitch de l'histoire, de jouer des enfants qui bossent pour Sherlock Holmes et qui vont mener leurs petites enquêtes quand le patron n'est pas là, dans un Londres peuplé de crimes et de génies du mal. Bref, le jeu entier des 4 de Baker Street, la partie jeu, est téléchargeable en PDF sur le site de l'éditeur de la bande dessinée, et c'est là évidemment que j'atteins mes limites d'incompétence, puisque je ne me souviens plus si c'est Soleil ou Delcourt, voire une autre, mais en tout cas vous tapez les 4 de Baker Street et vous devez pouvoir trouver l'info assez facilement. Bref, ça c'est une chose. Ensuite, il faut savoir donc que sur le site, vous tapez Olivier Legrand, vous utilisez votre Google Fou, vous allez tomber sur son site sur lequel il compile tous ses jeux de rôle. Donc ils sont des jeux de rôle amateurs. Amateurs, dans ce cas très précis, ça veut dire gratuit, parce que d'amateurs, ils n'ont que le nom. Ce sont des jeux de rôle de qualité pro. C'est vraiment de la très très bonne cam. Et donc notamment, on va parler des plus connus. La Terre des Héros, qui est un jeu de rôle pour jouer dans l'univers de Tolkien. Solomon Kane, qui est donc un jeu de rôle pour jouer dans l'univers de Howard. Imperium, pour jouer dans Dune. Et son Maze and Minotaurs, qui est un pastiche de Donjons et Dragons. Donc on va faire un rapide... On va faire une évocation de la méthode Olivier Legrand. Alors je vais commencer, alors que ce soit bien clair, je veux parler de lui parce que j'adore ce qu'il fait, mais je vais commencer à parler technique et on va avoir l'impression que je balance des vacheries. C'est pas le but, mais c'est vrai que, voilà, parlons peu, parlons bien, Olivier Legrand, les systèmes, c'est pas trop son truc. Donc, pour chacun de ses jeux, il y a un système qui est l'équivalent d'une bonne grosse table rustique. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, on sait qu'on peut manger dessus, il n'y a aucun problème, hein, à pouvoir découper le saucisson, ça ne bougera pas. Le truc, c'est 4 rondins, un gros morceau de table, voilà, on peut dépecer un ours, ça ne bougera pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément des systèmes super sexy. Il n'y a pas, vous savez, ce qu'on recherche nous maintenant en tant que rôliste hyper hype avec... des trucs de prise de contrôle narrative ou des espèces de systèmes la triple, quadruple résolution. Il n'y a rien de très sophistiqué dans ce que propose Olivier Legrand. On est... Oui.
Alors je m'étonne moi-même de défendre ce point de vue, mais j'avais été plutôt agréablement surpris par son Imperium qui a quand même des aspects mécaniques sur la gestion de maisons et pour faire de la politique et qui, bien avant Dark Ages de Vincent Baker, proposait un système pour faire du politique en jeu de rôle, et je trouve que c'est un très très bon travail sur le système. Après, ces mécaniques de combat...
Alors, cette technique de tacle à la carotide, je te reconnais bien, les narrativistes sont fréquentes, ce genre de méthode. J'allais y venir, parce que justement, ma deuxième... je voulais juste développer encore sur le côté ce que j'appellerais rustique des systèmes d'Olivier Legrand, c'est que globalement, ils sont là... pour faire le taf de la façon, d'une façon parfois assez old school. Moi, ça m'évoque, vous savez, L'Œil Noir ou Dragon Warriors, où on avait vraiment Terre de Légende chez nous, où on avait vraiment des systèmes. Bon, pour revenir à une question que Yannick pose très régulièrement, comment est-ce qu'on poutre ? L'idée, c'était vraiment de savoir comment on tue l'adversaire et comment on crochette la porte. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer un système de simulation. Et, bon là je vais embrayer sur ce que dit Steve, mais par contre, à côté de ça, à côté de, donc de, d'un système de résolution, on va dire, pas minimaliste, mais en tout cas très basique, le cœur du travail d'Olivier Legrand, c'est pour chaque jeu de proposer des mécaniques de simulation liées à ce qui fait
La
spécificité de l'univers. Et donc, pour Imperium, c'est un système de gestion politique, comme pour La Terre des Héros, c'est un système de gestion, on va dire, des qualités morales du personnage. Ça, il le met toujours au cœur. Même si le système de résolution est très basique, il met toujours cet aspect-là au cœur. Je reviendrai un peu plus en détail là-dessus. Donc, il y a vraiment du rustique et du thématique dans le travail système d'Olivier Legrand, mais c'est pas la principale qualité de son travail. Donc là, voilà, j'ai terminé sur tout ce que je pourrais dire de vaguement négatif sur son boulot, parce qu'après, je chante plus que ses louanges. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, surtout maintenant, où on est arrivé à un stade où le rôliste un petit peu hypeux, je reviens à ce que je disais par rapport à la portabilité, quand j'essayais moi aussi à mon tour de tacler vicieusement François, le rôliste hypeux, de toute manière, il a son système. Il le sait, il a trouvé la foi, il a vu la lumière, il y a un système, les mecs, ils ont trop bien fait le boulot. Bon, lui, il l'a un petit peu modifié pour que ce soit encore plus mieux, mais globalement, de toute manière...
C'est génial, mais je vais le faire à ma sauce.
Voilà, c'est ça. Mais de toute manière, je peux tout jouer avec, parce que c'est évident que ça fonctionne. Donc, de toute manière, le rôliste hypeux, il utilisera son truc de prédilection du moment. Il en changera dans 6 mois, mais c'est pas grave, c'est pas le propos. Et dans ce cas-là, le travail d'Olivier Legrand, il a encore énormément d'intérêt parce que voilà, la principale qualité de son boulot, c'est l'analyse, en fait, de ce qu'il cherche à simuler. C'est particulièrement flagrant dans le cas de la Terre des Héros, puisqu'en fait, quand on va aller sur le site pour télécharger la Terre des Héros, qui donc, je le rappelle, son univers dans les Terres du Milieu de Tolkien pour jouer du Tolkien, la première chose à lire, c'est un article, on va dire, d'une dizaine de pages sur pourquoi JRTM, et à l'époque, je crois, de la sortie des films, c'était un jeu de Decipher dont le nom m'échappe, mais qui devait être The Lord of the Rings role-playing game, pourquoi ces gens-là se sont plantés. Il fait un article de 10 pages pour dire, voilà, si vous voulez jouer du Tolkien, vous ne jouez pas à ça, parce que si vous jouez à ça, vous jouez à, ce qui est légitime, mais vous jouez à Donjons et Dragons dans les Terres du Milieu. Mais vous ne faites pas du Tolkien.
Il y a eu à une époque, si je me souviens bien, dans les années 90.
Bah, JRTM.
Non, mais je pensais même pas. C'est un phénomène qu'on a connu, et pas que sur JRTM. Je me souviens d'une époque où il y avait une boîte américaine dont le nom m'échappe qui sortait plein de bouquins qui étaient inspirés de films. J'ai un pote qui avait récupéré celui sur Aliens, un autre sur Terminator, et c'était toujours le même système de jeu. Et c'était, ouais, si vous voulez jouer dans l'univers de tel film, voilà. Et c'était typiquement, ben moi le souvenir que j'en ai, c'était tu lisais le truc, tu disais mais je vois pas en quoi le système de jeu a quelque chose à voir avec l'univers dont on parle. T'as vraiment cette impression de coller un univers sur une mécanique de jeu sans chercher à en tirer le...
Donc là c'est l'inverse, il a une mécanique de jeu qu'il décline à chaque fois super bien, adaptée à chaque univers, c'est
Alors ce sont des mécaniques de jeu à chaque fois radicalement
différentes, d'accord.
Il change à chaque fois, et parce qu'en fait donc ce qu'on voit dans son, on va dire dans son making of de la Terre des Héros, son article préalable à la création du jeu, c'est que vraiment lui il analyse en gros, les grands axes littéraires du truc, et il essaye de produire un système qui va être de simuler ça. Et donc, notamment, donc, quand il parle de la Terre des Héros, il vous explique que bon, bah, les gens qui voient Bilbo dans Bilbo le Hobbit comme quelqu'un qui commence Hobbit niveau 1 et qui rentre après avoir tué Smaug Hobbit niveau 20 n'ont rien compris. C'est absolument pas de ça dont parle Tolkien. Et donc, il commence à développer son raisonnement et donc ensuite fournit dans la Terre des Héros la mécanique de jouer pour jouer ça. Pour lui, donc pour prendre l'exemple de... Parce que je pense que vraiment, s'il y a... Le Seigneur des Anneaux, c'est le plus petit dénominateur commun du rôliste. On l'a tous vu. On n'a peut-être pas tous lu, mais au moins, on a tous vu les films pour voir à peu près à quoi ça ressemblait. L'idée, vraiment, lui, il dit... Voilà, il y a deux choses extrêmement importantes dans le style de Tolkien, dans l'histoire tolkienesque. L'épopée héroïque tolkienesque, c'est... Le principe des qualités morales, c'est-à-dire vraiment comment va se révéler le héros face, bon, dans le cas du Seigneur des Anneaux, face à l'ombre, face à la corruption, face à la peur, face à la tentation du pouvoir, etc. Et ce qui va faire le héros, c'est sa capacité à résister à ça. Donc, au cœur du système, il va placer les qualités morales. Et deuxièmement, pour lui, ce qui est extrêmement important, c'est le concept de destin. Donc Aragorn a son destin, il est né pour être un nouveau roi, il est né pour apporter l'âge des hommes, etc. Et donc pareil, il va mettre au cœur du système de jeu le concept de destinée. Donc pour lui, c'est ça qui fait le héros. Sam est un Hobbit niveau 1 qui finira Hobbit niveau 1. Oui. Sauf qu'il a quelque chose à faire, que ce soit tuer Arachné et accompagner le porteur de l'anneau jusqu'à la montagne du destin. Il a les armes pour ça, qui sont donc les points de destin, son courage, le fait qu'il résiste à tout, alors que les mecs se plantent, les mecs trahissent, les mecs ont peur. Lui n'aura pas peur, lui il va continuer jusqu'au bout, et c'est ça qui va le rendre héroïque, et c'est ça qui est au cœur de la mécanique de la Terre des Héros. Et donc sur chacun des jeux, Olivier Legrand va essayer vraiment d'axer les choses là-dessus. Sur Solomon Kane, où on joue des mecs qui n'ont que leur courage et leur, on va dire leur toughness, parce que les types c'est des badass ultimes pour lutter contre les choses qui nous font peur dans la nuit, parce que c'est ça, Solomon Kane, c'est j'ai ma rapière, il me reste, enfin j'ai une balle dans mon flingue, et en face il y a des choses qui chuchotent dans les ténèbres et qui se rapprochent, sauf que j'ai pas peur, sauf que je suis un guerrier, sauf que j'ai la foi, sauf que non, je vais résister. Et donc il va mettre un système là-dessus pour proposer aux joueurs de jouer des personnages qui ont ce truc qui fait que là où le commun des mortels va avoir peur, s'enfuir et se faire quand même manger par le loup-garou, toi, tu vas pas t'enfuir et le loup-garou, tu vas en faire un veston. Voilà. Et ça, et donc, il propose. Et puis, dès le départ, c'est même en disant, bien, voilà, quand vous jouez à Solomon Kane, prenez pas une table de 4 personnes. 4 Solomon Kane, c'est pas crédible, ça marche pas. C'est un jeu pour faire jouer un ou deux joueurs. Parce que, voilà, des héros de cette étoffe-là, on peut envisager de les jouer un seul ou en paire. Au-dessus, c'est plus très crédible. C'est vraiment l'agence touriste qui en perd complètement le côté, la peur qui va avec le récit de World. Et donc, sur son Solomon Kane, par ailleurs, il va prendre le temps de proposer des choses, par exemple, notamment donc dans les héros de Howard, il y a régulièrement des personnages féminins. Et là, donc, le mec se paye le luxe de faire tout un chapitre du livre de base pour expliquer comment justifier un personnage féminin, comment bien l'incarner dans l'Europe des 17e, 18e siècles, où par définition, quand t'es une meuf, bah, tu restes à la maison, tu fais rien. Et donc, il explique que chez Howard, sont toujours des personnages en rupture de banc, etc., etc., pour éventuellement jouer un personnage féminin dans cette Europe-là. Donc, une Europe qui est identique à la nôtre, sauf qu'il y a des choses dans les ténèbres. Donc voilà, on pourrait parler aussi donc de Imperium. Encore une fois, c'est son jeu le plus connu, je me sens pas obligé d'en rajouter une couche, mais effectivement, comme elle avait très bien mentionné Steve, on a un système donc de gestion de la politique, un système très aussi pour ceux qui aiment vraiment l'ambiance Dune, porté sur tout ce qui est poison, assassinat, etc., etc., parce que c'est au cœur de l'univers de Dune, un travail de synthèse sur l'univers qui est absolument passionnant, c'est vraiment du très très bon boulot. Donc là, on est dans ces ouvrages où il cherche à émuler un style littéraire via le jeu de rôle, mais on pourrait parler aussi de Maze and Minotaur, qui est très rigolo, qui est l'idée d'émuler un style de jeu de rôle par le jeu de rôle, le style donge par essence. Donc le postulat de base, c'est un pastiche, et c'est le pastiche chez lequel, bon bah, Gygax et Arneson ont décidé de faire un jeu de rôle à partir d'un jeu de plateau, donc à partir de Chainmail. Ils sont évidemment basés sur le seul ouvrage qui vaille le coup d'être utilisé pour faire vivre des héros, c'est évidemment Homer, c'est la légende grecque. Tolkien, on voit même pas qui c'est. Enfin voilà, le Seigneur des Anneaux. Donc, ça nous intéresse pas. Non, ce que les gens veulent jouer, évidemment, c'est Jason. Ils veulent tuer des Minotaures, des dragons et des elfes. Mais enfin, soyons un petit peu sérieux. Les gens veulent jouer des centaures. Et donc, il vous fait un PHB, un Monster Manual et un Guide du Maître entièrement basé là-dessus. Où donc, on va jouer des hoplites, des centaures barbares, et on va aller affronter la chimère, etc. En se payant le luxe. Donc, il le fait entièrement en anglais. En se payant le luxe de mettre des fausses pubs, des fausses références. Parce qu'en fait, le jeu est vraiment donge dans un univers uchronique où ils sont basés sur autre chose pour faire donge. Et donc, avec des références aux éditions précédentes, sachant qu'il n'y a jamais eu d'édition précédente. Voilà. Ça, c'est... Bon, ça, c'est pour...
Ce jeu, il a l'air très rigolo. Il a pas été traduit, celui-là, non ?
Non, il n'a pas été traduit en français, mais encore une fois, tout est téléchargeable gratuitement. N'hésitez pas, foncez.
C'est des jeux de rôle qui sont de grands, enfin, je veux dire, qui prennent... qui font beaucoup de pages.
Alors après, ça dépend, parce qu'en plus, effectivement, enfin, Imperium est assez massif.
Imperium a toute une communauté qui produit des suppléments. Donc, si tu prends la totalité de la dernière édition qui est sortie, je crois, l'an dernier ou il y a deux ans, il doit y avoir dans les 200-300 pages.
Avec le jeu compris.
Mais le jeu de base, c'est peut-être 80-90 pages.
Ah oui, non, mais c'est quand même 90 pages.
Oui, oui, tout à fait.
C'est pas les jeux en une page, quoi. C'est sérieux, quoi.
C'est 90 pages illustrées, parce qu'ils se payent le luxe d'avoir des gens. Alors évidemment, on n'est pas sur des illustrations, on va dire, 100% qualité pro, mais on est dans du très 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 bon amateur. Donc des gens qui vont lui faire des illustrations originales pour son jeu gratuit, rappelons-le. Donc, enfin, à ce niveau-là.
Mais alors, c'est gratuit alors, hein, c'est ça.
C'est gratuit.
J'ai cru comprendre.
Je pense pas avoir assez insisté sur la gratuité des.
J'ai compris que c'était
mais
hyper
ça
trop.
Combien tout ça
voilà. C'est combien ton gratuit?
Mais voilà, c'est ça, j'allais dire, ça coûte combien ton gratuit?
Bah, techniquement, en fait, tu ne payes rien. En fait, c'est un. Voilà, c'est très intéressant.
D'accord, non mais donc ça veut dire qu'il fait des jeux de qualité professionnelle, manifestement dans des environnements à chaque fois très intéressants, originaux et avec des voilà de la compétence, des points d'humour, des choses comme ça et un système de jeu à chaque fois adapté. Donc là tu nous le vends, j'ai envie de te dire très très bien quoi.
Voilà, mais parce que je suis fan, mais évidemment, faut être un petit peu objectif, encore une fois, je le dis, la rusticité de ces systèmes risque de rebuter le technicien. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si vous êtes un pur technicien, vous allez kiffer lire ces jeux juste pour effectivement les conseils sur l'ambiance. Je pense que son Solomon Kane, même si vous jouez au Solomon Kane Savage World ou si vous jouez, mettons, au Lame du Cardinal, il faut le lire parce que vous allez avoir énormément d'analyses. Il fait des suppléments sur tel ou tel aspect, etc. Il y a une France surnaturelle pour Solomon Kane qui est en 12 ou 13 pages. C'est passionnant. Donc vraiment, c'est très très bien. Je voudrais juste, voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je pense que j'ai assez enthousiaste.
Oui, t'es assez enthousiaste, et en fait, surtout, ça donne envie d'aller les chercher, de les lire, et éventuellement d'en chroniquer un ou deux, ou plus, ou tous.
Dans le détail, c'est un truc, effectivement, qui pourrait être fait si ça intéresse les auditeurs de Radio Rollist. Mais voilà, enfin, le fait est que, bon, je conclurai juste
là-dessus.
On
mettra les liens pour l'été.
Voilà, sur un tout petit moment émotion, voilà, moi, à une époque où j'avais pas beaucoup de sous à mettre dans le JDR, parce que, voilà, j'étais en mode Chomdu, Lalouse, etc., etc., bah ça m'a fait quand même bien plaisir de me dire que pour quelqu'un qui a un tout petit budget, on peut aller choper tout ce matos, et à chaque fois sur chaque jeu, il y a vraiment du matériel pour jouer des campagnes vraiment de qualité grâce à Olivier Legrand. Donc, je voulais juste lui dire merci pour tout son travail.
Bon, alors merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière question très bête, c'est pourquoi est-ce que c'est amateur dans ce cas-là? S'il y a une telle qualité, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un éditeur qui se dit tiens, ça pourrait être sympa de faire un vrai travail éditorial dessus et de le diffuser à plus grande échelle?
Pour certains de ces jeux, c'est assez évident, c'est-à-dire qu'aucune boîte en France peut se payer la licence Terre de Légende ou même Solomon Kane. Dans le cas de Maze in Minotaur, il pourrait probablement se faire publier. Maintenant, lui, il a décidé de filer les choses gratos parce que, d'après ce que je comprends, il a son taf, il est content comme ça.
Voilà,
ça,
c'est un choix personnel.
C'est un choix perso.
Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à tous. On va faire juste une petite pause et puis on reprend dans quelques minutes.